Eh bien, on a pu vous suivre un petit peu cet été avec Facebook. Il y en a qui étaient en vacances un peu partout à travers le monde. Là. Il y a des gens dans l'Ouest canadien, tout ça aussi. Nous, on a reçu la visite chez nous. Vous savez, on a comme quelques enfants, quelques petits-enfants. Alors, on a eu notre garçon qui est venu avec sa famille chez nous quelques jours. Après ça, c'était Katia, notre fille, qui est venue chez nous pendant quelques jours. Après ça, c'était Julie qui est venue chez nous avec sa tribu. Là, après ça, ce qu'on a fait, c'est entre ça, on s'est faufilé, on est allé dans le Vieux-Montréal. On aime bien ça au moins une fois par année, aller dans le Vieux-Montréal. On va toujours, quand on va dans le Vieux-Montréal, moi, je travaillais juste au coin de Saint-Paul puis Saint-Sulpice. Ça ne vous dirait peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, c'est dans le Vieux-Montréal. Pendant quelques années, je travaillais là. Et c'est super beau, le Vieux-Montréal. Et on en profite chaque année pour aller au restaurant, au Jardin Nelson. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, le Jardin Nelson? La cour, hein? Tu rentres dans cette belle grosse terrasse dans la cour d'un restaurant, à ciel ouvert, et puis vous avez des immenses parasols, orchestre jazz. Alors, ouf, hey, c'est vraiment super. Alors, on en a profité, on est allé là, et puis après ça, on est allé prendre une marche sur le bord de l'eau. On est allé voir les gros bateaux qu'on ne s'arrêtera jamais, tu sais, des bateaux de 10 millions, etc. Il y avait un bateau immense, tout à fait, toute beauté. Et là, alors on marche, et puis la façon que c'est fait dans le vieux, si jamais vous êtes jamais allé, tu as le bord de l'eau, tu as la section de la marina, et puis ils ont réservé aux piétons une rue qui est vraiment collée à la rue, à la rivière, au fleuve. Et puis tu peux marcher là, il y a des gens qui font du vélo et ça se promène. Alors on est en train de marcher, et puis on est en train là, de regarder un peu les bateaux et tout ça, on se promène. Puis d'un coup, on entend une voix. En anglais, quelqu'un qui était en vélo, deux gars dans le fond qui étaient en vélo, puis qui disait « Are you Jewish? » Il demandait ça aux gens. « Êtes-vous juif? » Puis là, il continuait avec son vélo. Il y avait un gars qui était en vélo avec une boîte en arrière de son bicycle. C'était des choses à son vélo. Il vendait des affaires. Puis, tu avais l'autre qui marchait, qui suivait. C'était des juifs orthodoxes. On savait que c'était des juifs orthodoxes, évidemment. Tu vas habillé en noir. Tu as le chapeau, la barbe et tout ça. Puis, tu as les deux mèches en spirale qui s'appellent le Pehot. Qui est vraiment comme ça. Alors, c'est facile à reconnaître. Alors, deux juifs orthodoxes sont là et puis ils suivent. Ils sont en arrière. Alors, nous, on est en train de marcher et on entend ça. Are you Jewish? Puis là, ils continuent. Les gens disaient non, non. Are you Jewish? Non, non. Êtes-vous juif? Non. Là, il arrive à côté de moi. Il dit Are you Jewish? Je dis yes. Il dit oh! Là, il arrête. Client potentiel. Il vendait des cossins. T'sais. Il dit Are you going to celebrate the Shabbat? Alors, allez-vous célébrer le sabbat? Alors, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je suis juif, mais j'ai reconnu Yeshua HaMashiach, que Jésus est le Messie. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, il y a quelques années, il y a un rabbin qui est venu de Jérusalem. Puis j'ai dit, il donnait un cours à l'Université de Concordia. Je vous ai déjà raconté ça un petit peu. Ça. Et il y avait un rabbin qui venait de Jérusalem, Michael Nehorai, puis il était venu pour donner un cours et tout ça. Puis j'avais suivi son cours à Concordia. C'était sur le judaïsme et tout ça. Et puis j'ai dit, sais-tu, le gars, là, c'est un rabbin de Jérusalem. C'est un docteur de la loi. Il connaît la loi. Puis il était là. Puis j'ai dit, ce gars-là, là, j'ai dit, il est venu à Montréal, et pour la première fois, il a commencé à lire le Nouveau Testament. Il est tombé en amour avec Jésus. Pour la première fois de sa vie, il voyait Jésus vraiment comme il est révélé dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, ce gars-là, là, il entraîne des jeunes rabbins. Là. Il dit, Fait que j'ai dit, alors, lui-même a même dit qu'il n'avait jamais vu une personne aussi spirituelle dans toute la littérature juive. Hey, j'ai dit, c'est un docteur de la loi, là. Il connaît la littérature juive. Il a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un aussi spirituel que Jésus-Christ. Alors, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, dans la Bible hébraïque, tu ne dis pas un Ancien Testament, un juif, il va être insulté, là. Dans la Bible hébraïque, il y a plus de 300 prophéties qui ont été réalisées par Jésus-Christ, par Jésus. J'ai dit, toi là, tu devrais lire le Nouveau Testament. Le rabbin de Jérusalem a lu le Nouveau Testament, là. Tu devrais lire le Nouveau Testament. Et puis, un gars comme toi, tu vas faire des connexions, tu vas faire des liens avec l'Ancien Testament, avec la Bible hébraïque. Tu vas faire ces liens-là. Alors là, j'ai arrêté, puis je l'écoute. Alors là, il me regarde. T'es en bicycle, t'es en vélo. Savez-vous ce qu'il a dit? Revenez la semaine prochaine, on va vous dire ça. Je vais faire mon capitaine bonhomme un petit peu. Ça, si vous avez des cheveux gris, si vous savez c'est qui. Ben non, il me regarde, puis il me dit, allez-vous célébrer le sabbat? Alors, imaginez-vous. Imaginez-vous, là. Savez-vous, réalisez-vous ce qui est en train de se passer avec ce bonhomme-là, là, cet homme-là, ce jeune homme-là? Savez-vous ce qu'il est en train de dire? Son souci, c'est quoi? Vous allez dire, ouais, mais il voulait te vendre des affaires. Tout ça. Non, non, écoute, il pourrait travailler dans un magasin et il ferait bien plus d'argent. Là. Il pourrait travailler dans un concessionnaire et tout ça. Son souci pour lui, là, c'est l'observation, l'obéissance de la loi. Maintenant, si vous êtes nouveau ici, quand on parle de loi, on ne parle pas d'une loi, de loi du gouvernement. Là. Oui, oui, il faut observer la loi du gouvernement. Il faut observer la loi de la route et tout ça. Sans ça, Sergent Plus va vous donner une étiquette. Là. Et, alors, oui, oui, il faut observer la loi, absolument. On ne parle pas de ça, là. On parle de la loi juive, la tradition, des écrits orales, la loi orale et écrite. On parle des traditions juives qui ont été adoptées avec les siècles et tout ça, des centaines de lois. Son souci n'était même pas de pousser plus loin l'addiction sur le Messie. Imagine-toi, là, ça fait des siècles que les Juifs veulent découvrir le Messie. Ils veulent que le Messie revienne. Et moi, je suis en train de donner des arguments assez solides pour des Juifs. Je me suis tenu assez souvent, assez longtemps, suivi des cours avec des rabbins, des juifs, je sais. C'est assez des arguments assez solides, au moins pour que, si ce n'est pas assez pour le convaincre, au moins qu'il s'intéresse à pousser un petit peu davantage. Et peut-être que Dieu va faire quelque chose un jour, et peut-être qu'il va aller chercher en secret un Nouveau Testament, puis il va commencer à aller, puis peut-être que Dieu va se révéler à lui. Absolument, peut-être Dieu peut faire ça dans sa grâce. Mais son souci à ce moment-là n'était pas d'aller pousser plus loin, connaître le Messie, qui est le Messie. Son souci, c'était observer la loi. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils mettent tellement de l'accent là-dessus? Parce qu'ils veulent être acceptés par Dieu. Ils vont faire beaucoup d'efforts parce qu'ils veulent être acceptés par Dieu. Ils ne savent pas. Et ils veulent vraiment que Dieu les accepte. Ils veulent que Dieu leur donne sa faveur ici, maintenant, sur terre. Et aussi qu'ils aient la vie éternelle plus tard, qu'ils aient dans le ciel plus tard, après la mort. Ils ne le savent pas. Ils sont inquiets, sont préoccupés. C'est la même chose pour les musulmans, en passant. Pourquoi on observe la loi rigide du Coran? On veut la faveur de Mahomet, de Dieu, de Allah. On veut non seulement ses faveurs, mais on veut qu'il nous accepte parce qu'on ne le sait pas. Il y a des musulmans, d'ailleurs, à qui on parle, qui racontent comment ils ont cette pression continuelle. Un bonhomme de 15 ans, qui était un chef, un cheikh, un leader chez les musulmans en charge, qui gérait des mosquées. Et lui-même a raconté comment il avait un cœur vide et un cœur qui était triste. Il ne disait pas à personne, mais c'était une pression continuelle à essayer d'être accepté par Dieu. Vous savez, c'est ça la religion. Et c'est pareil au Québec, vous savez. J'étais vraiment surpris, je racontais ça à mon épouse hier soir. J'ai dit, chérie, seulement 12,1% des Québécois ne se dit pas affilié à une religion quelconque. Les gens sont très religieux et on s'entend. Les gens vont parler de Dieu, etc. Ils ont une idée très nuancée qui est Dieu et tout ça, mais les gens se disent croyants en gros. Ça fait quand même presque 90% de notre province et c'est des chiffres quand même assez récents. On ne parle pas de vieux chiffres, là. Et chaque fois qu'on parle, quand on parle aux gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire les œuvres. Faire des œuvres, travailler fort, essayer de faire du bien à ton prochain, essayer d'aimer ton prochain. L'accent, quand tu parles, l'accent est toujours sur essayer de se faire accepter par Dieu. Ils ne savent pas. Vous savez, les gens aujourd'hui ne mettent pas l'accent sur l'Évangile, qui est le message central de la vie chrétienne. Ils vont mettre l'accent sur faire des œuvres, faire des choses pour essayer d'être accepté par Dieu. Et il y a un danger aussi que nous courons comme Église de nous éloigner tranquillement aussi de l'Évangile, de tellement mettre l'accent sur des choses à faire, sur le service, l'obéissance, etc. Et on est en train tranquillement de se distraire, de se distraire du point central de la vie chrétienne, qui est l'Évangile. C'est Don Carson qui racontait que si nous prenons l'Évangile pour acquis, même nous comme Église évangélique, si nous enseignons un tas de choses qui sont secondaires, il dit, vous aurez plein de gens qui seront ignorants d'Évangile, et à la fin de la prochaine génération, vous allez avoir des gens qui vont même contredire l'Évangile. L'Évangile, dit-il, doit être au centre. Alors même l'Église n'y échappe pas, de nous éloigner tranquillement de l'Évangile. C'est ça qui est arrivé avec la Réforme. Qu'est-ce qui est arrivé à la Réforme? c'est que l'Église avait adopté toutes sortes de traditions et tout ça, et c'était détourné, c'était éloigné de ce que justement Alexandre soulevait tantôt lorsqu'il nous conduisait dans des chants de louange. Ils se sont éloignés du message de la grâce de Dieu, du salut par grâce, la justification par la foi et non par les œuvres. Cette tendance à s'éloigner de l'Évangile, ce n'est pas nouveau, ça arrivait même dans le temps, à l'époque du Nouveau Testament. C'était un problème que les auteurs du Nouveau Testament même devaient, ils étaient confrontés. Par exemple, c'est ce qui a inspiré certaines des lettres de l'apôtre Paul lorsqu'il l'écrivait. Il invitait, il exhortait même, il trouvait ça très, c'est très sérieux, à revenir vraiment à l'Évangile. Par exemple, on a quelques exemples ici. Laissez-moi vous montrer ici Galates chapitre 1. Mais d'ailleurs, on va le lire. On va le lire ensemble, Galates chapitre 1, versets 6 à 12. Galates chapitre 1. Vous êtes là? On va lire de 1 plutôt, 1 à... Non, on va commencer à 6 plutôt. 6 à 12. Oui, c'est ça qu'on va lire. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Verset 8. Alors, Galates 1, 8. Mais si quelqu'un, même nous, imagine, l'apôtre Paul l'a dit, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est des paroles dures, ça. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, on va plutôt passer au verset 11. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai pas moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous comment c'est important, c'est central l'Évangile? Un autre passage et qu'on veut tourner ou on veut tourner, et on va regarder ça ensemble, c'est 1 Timothée. D'ailleurs, on va plutôt passer même le restant de l'après-midi, pas l'après-midi, mais la matinée. Vous ne serez plus là, hein? Ouais, tu peux continuer à parler, normalement, nous autres, on ne sera plus là, c'est correct. 1 Timothée, chapitre 1. Et on va lire versets 1 à 4. Et après ça, on va sauter sur le verset 11. 1 Timothée, chapitre 1. Vous êtes là? Verset 1. « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » Allons au verset 11. Voilà ce qui est conforme au glorieux, quoi? Au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qui m'a été confié. Le glorieux évangile. Et que j'aime donc ça, cette expression-là. Le glorieux évangile. Certains s'éloignaient de l'évangile, vous voyez? Même déjà au Nouveau Testament, ça arrivait déjà. Au cours des prochaines semaines, ce qu'on veut faire, on veut regarder ensemble une série sur 1 Timothée. On veut passer à travers cette lettre à Timothée. Ce qui ressort clairement à travers la lettre de Timothée, une courte lettre, juste 6 chapitres, c'est que ce qu'on croit de l'Évangile, la priorité que l'on donne à l'Évangile va avoir un impact sur ta façon de vivre. C'est lié, les deux sont liés. Maintenant, voici ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse, parce que Timothée avait été placé dans l'église d'Éphèse pour mettre un peu d'ordre dans l'église à Éphèse. Paul l'avait mandaté, lui a donné cette mission de rester à Éphèse, s'occuper de l'église, parce que ça n'allait vraiment pas bien. Alors, voici ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. Il y avait certaines personnes influentes se sont intégrées dans l'église d'Éphèse. Ils ont commencé à enseigner toutes sortes de faussetés, enseigner toutes sortes d'erreurs. Et ils mettaient l'accent sur des choses vraiment farfelues et ridicules, tant qu'à moi. Par exemple, ils enseignaient que tu n'avais pas le droit de marier, que Dieu disait que tu n'avais pas le droit de te marier. Dieu interdisait ça, que tu n'avais pas le droit de te marier. Que Dieu était contre le fait que tu manges des bons steaks sur le barbecue. Dieu était contre que tu manges de la viande, comme si Dieu était végétarien. C'était absolument faux. Absolument rien. Il n'y a pas personne, il n'y a pas nulle part dans les Écritures qui va dire ça dans le Nouveau Testament. Jésus dit, va même à Pierre, bien, va dire, mange de tout ce qui va te présenter, mange avec action de grâce. Ces leaders-là sont même allés avec toutes sortes d'interprétations farfelues avec la généalogie. Ils prenaient la généalogie et ils ont commencé à faire toutes sortes de bâtir toutes sortes de théories à partir de la généalogie. Ils mettaient l'accent sur des choses qui étaient futiles, inutiles. Alors Paul disait à Timothée, il faut que tu arrêtes ces gens-là. Ils sont en train de se détourner de l'Évangile. Verset 3, d'ailleurs, qu'on vient de lire, dit ceci, « À mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse. » pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, alors d'autres évangiles, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. C'est quoi le projet de Dieu? C'est l'avancement de l'Évangile. C'est de faire avancer la cause de l'Évangile. Paul laisse donc Timothée à Éphèse afin de confronter ces personnes influentes, ces leaders, ces enseignants et de les encourager à arrêter, les exhorter à arrêter de répandre ces faussetés et revenir à l'Évangile. Parce que voyez-vous, ces gens commençaient à raconter des faussetés, des erreurs, non seulement à l'endroit de Jésus-Christ, mais aussi comment marcher avec le Seigneur, comment suivre le Seigneur. Alors Paul est en train de dire, ça n'a pas de bon sens, il faut que vous reveniez à l'Évangile. Alors, Paul envoie cette lettre à Timothée pour montrer à Timothée comment faire ça, comment remettre de l'ordre dans l'Église, comment les ramener et l'importance de l'Évangile. Verset 14, chapitre 3, verset 14, Paul va dire ceci à Timothée. « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si je retarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu » qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Voilà le rôle de l'Église. C'est la colonne et le soutien. On est là pour faire la promotion de la vérité. Et c'est quoi la vérité? Bien, Jésus le dit dans Jean 17, il dit, « Ta parole est la vérité. » On est là pour, on est la colonne de soutien, pour faire la promotion de la parole de Dieu, telle qu'elle a été révélée. Maintenant, 1 Timothée, cette lettre, commence avec la mission de Timothée. La façon que c'est bâti, le premier chapitre touche ou porte sur la mission de Timothée, chapitre 1. Mais en plus, elle termine, Paul va revenir sur la mission de Timothée vers la fin du chapitre 6. Et c'est comme ça que c'est bâti. Alors, la lettre commence et termine, conclut sur la mission de Timothée. Et entre ça, il y a deux bons blocs, chapitre 2 et 4 à 6, deux bons blocs qui, là, vous avez les instructions pratiques, et c'est pratique pour nous aussi comme chrétiens. Et ce qui relie tout ça sont trois poèmes que Paul va livrer à la fin de tous ces blocs où Paul va exalter Jésus, sa résurrection et comme roi de toute la terre. Alors ce matin, on fait juste mettre la table, on introduit, on va commencer cette série. C'est un survol de la lettre. On veut faire ressortir un peu le thème qui ressort, le grand thème finalement. Même si ça touche, la lettre va toucher à plusieurs aspects. On veut toucher au grand thème de cette lettre qui est l'Évangile. Maintenant, comme on le disait, certaines personnes s'éloignaient. C'est des personnes qui avaient beaucoup d'assurance. Ils prenaient le rôle de leadership dans l'Église. Ils essayaient d'influencer les gens. Et ces gens-là étaient en train finalement d'éloigner l'Église du message central qui était l'Évangile, ou pour employer l'expression de Paul, le glorieux Évangile. Remarquez comment Paul va commencer sa lettre. Alors, on est habitué de voir les salutations. Lorsque Paul a écrit 13 lettres, et habituellement, il prend l'habitude de faire un petit mot d'introduction où il fait des salutations. Mais déjà, dans sa salutation, il va donner une certaine piste ici où la lettre va se diriger, de la direction qu'il va prendre. Regardez ce que ça dit au verset 1. « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. » C'est des paroles fortes, ça. « Il est en train de dire ce que je dis vient directement de Dieu. Je suis un apôtre et l'évangile que je défends vient directement de Dieu. Maintenant, pourquoi Paul sent besoin de rappeler ça à Timothée? Écoutez, Timothée était un bras droit de l'apôtre Paul. Il a fait des voyages missionnaires avec l'apôtre Paul. Pourquoi Paul répète cela à Timothée? Bien, vous voyez, il y a une controverse dans l'Église. Ce ne serait pas facile. Timothée doit confronter l'erreur, confronter certaines personnes au sein de l'Église qui ont du caractère, qui ont de l'assurance. Alors, Paul est en train de rappeler à Timothée. On a besoin de revenir à l'Évangile. Que l'Évangile est vraiment, vient de Dieu. C'est Dieu, ça. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Alors, Paul rappelle à Timothée une vérité fondamentale qu'on a besoin de se rappeler, surtout quand il y a de la controverse. C'est « Rappelle-toi, Timothée, reviens à l'Évangile tel que je te l'ai donné et que je l'ai donné. » Comme Église, nous avons besoin de revenir à l'Évangile tel qu'il a été révélé et transmis aux apôtres. Timothée avait besoin de se faire rappeler. Mais Paul sait aussi que cette lettre va être lue à l'Église d'Éphèse et va être lue dans toutes les Églises. Ce que Paul va dire à Timothée essentiellement, c'est qu'au lieu de mettre l'accent sur plein de controverses, de choses secondaires, centrez vos efforts, canalisez vos énergies au sein de l'Église pour faire avancer le progrès de l'Évangile, pour mousser la cause de l'Évangile. C'est ça le message qu'il est en train de dire. Sur l'essentiel. Alors, pourquoi c'est si important de préserver le glorieux Évangile? C'est vital de préserver le glorieux Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la santé spirituelle de ta vie et de l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est qui l'Église? Ce n'est pas des briques, ce n'est pas une bâtisse, c'est toi puis moi l'Église. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes le temple de Christ, de Jésus-Christ. C'est vous et moi, ça. Préserver l'Évangile, c'est important, c'est majeur, parce qu'il y va de notre santé spirituelle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 10, dit ceci. Il parle des péchés et des débordements de certains, tout ça. Il va dire, il dit, toutes ces choses sont contraires à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme, verset 11, au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. La saine doctrine. L'évangile que Paul s'est vu confier par Dieu est la saine doctrine. Le mot saint est vraiment intéressant et c'est important. Ici, dans l'original, ça dit quoi? Ça parle de santé. La santé spirituelle, ta vitalité en dépend. La saine doctrine, ça va avoir un impact dans ta vie. Une Église sera en vitalité, elle aura de la vitalité, elle sera en santé spirituelle. Elle va grandir, elle sera en vie. Alors, il faut comprendre donc que l'Évangile est la santé spirituelle. C'est non seulement pour le salut, c'est ça qu'Alexandre essayait de nous faire comprendre tantôt par ses propos, mais aussi pour notre croissance. Certains pensent, quand on parle de l'Évangile, je parlais de ça à un individu à un moment donné, puis je parlais de l'Évangile, puis il disait, ah, tu veux dire le plan du salut? Certains pensent, beaucoup pensent, les chrétiens pensent que l'Évangile, ça fait référence simplement à la façon de venir à Jésus-Christ. Et certainement, ça comprend ça. Le message de la croix, de la crucifixion de Jésus-Christ, comment il est notre substitut sur la croix. Il est allé à la croix pour prendre nos péchés et de pardonner nos fautes. Il est ressuscité d'entre les morts. Et lorsque je place ma foi en Jésus, que Jésus est mon salut, qu'il a pris sur lui mes péchés, le jugement que je méritais, lorsque je place ma foi en Jésus, je deviens une nouvelle créature, dit 2 Corinthiens 5, 17. Oui, absolument. Mais c'est plus que ça. C'est la victoire que tu vas avoir. Ton progrès, ta croissance dépend de cela. Comme dit Keller, l'Évangile, ce n'est pas le ABC, c'est le A à Z. James Greer, J.D. Greer, dit ceci, donne son témoignage lorsqu'il a redécouvert l'Évangile. Il dit, il y a une énergie qui s'émerveille en moi et qui me transforme et qui me pousse à utiliser tout mon potentiel vers le royaume de Dieu depuis qu'il a redécouvert l'Évangile. Alors, c'est ça qu'on veut faire dans les prochaines semaines. On veut rentrer dans cette lettre parce que Paul va dire dans Romains 1 que c'est la puissance de Dieu, l'Évangile. La puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça qui explique qu'une femme qui a été aux prises avec la sorcellerie et toutes sortes de pratiques occultes s'est vue libérée après 15 ans lorsqu'elle a découvert Jésus. où c'est la puissance, cette même puissance-là qui a libéré un homme. Il était athée, il a essayé le bouddhisme, il a sombré dans la drogue et dans l'alcool pendant des années, jusqu'au jour où il a rencontré un chrétien qui lui a partagé l'Évangile. Et il a dit lui-même, « Mes yeux se sont ouverts sur Jésus et sur le pardon qui se trouve à la croix. » Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Donc, nous avons besoin, vous et moi, de revenir à l'Évangile. Amen.